Livre de l'Apocalypse au chapitre 2e. À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit: Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des sept lampes d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience, et que tu ne peux supporter les méchants, et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs, et tu as patience, et tu as supporté des afflictions pour mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu, et repens-toi, et fais les premières œuvres. Autrement, je viens à toi et j'ôterai ta lampe de son lieu, à moins que tu ne te repentes. Mais tu as ceci, que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, lesquelles moi aussi je hais. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Smyrne, écrit: Voici ce que dit le premier et le dernier, qui a été mort et qui a repris vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche, et l'outrage de ceux qui se disent être juifs. Et ils ne le sont pas, mais ils sont la synagogue de Satan. Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui vaincra n'aura point à souffrir de la seconde mort. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Pergame, écrit: Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu habites, là où est le trône de Satan, et tu tiens ferme mon nom. Tu n'as pas renié ma foi, même dans les jours dans lesquels Antipas était mon fidèle témoin, qui a été mis à mort parmi vous, là où Satan habite. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens qui tiennent la doctrine de Balaam, lequel enseignait à Balak à jeter une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commissent la fornication. Ainsi, tu en as, toi aussi, qui tiennent la doctrine des Nicolaïtes pareillement. Repends-toi donc, autrement, je viens à toi promptement, et je combattrai contre eux par l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur le caillou un nouveau nom écrit que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Et à l'ange de l'assemblée qui est à Thyatire, écrit: Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a ses yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain brillant. Je connais tes œuvres, et ton amour, et ta foi, et ton service, et ta patience, et tes dernières œuvres qui dépassent les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses faire la femme Jézabel qui se dit prophétesse. Et elle enseigne et égare mes esclaves en les entraînant à commettre la fornication et à manger des choses sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, mais elle ne veut pas se repentir de sa fornication. Voici, je la jette sur un lit, et ceux qui commettent adultère avec elle dans une grande tribulation, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Et je ferai mourir de mort ses enfants. Et toutes les assemblées connaîtront que c'est moi qui sonde les reins et les cœurs, et je vous donnerai à chacun selon vos œuvres. Mais à vous, je dis, aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne vous impose pas d'autres charges, mais seulement ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Et celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai autorité sur les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, comme sont brisés les vases de poterie, selon que moi aussi j'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées.
Les frères ont été occupés hier du premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Nous essayons de rappeler brièvement les pensées principales qui ont été exprimées en rapport avec ce premier chapitre. Le livre de l'Apocalypse, son importance a été très heureusement soulignée dans la journée d'hier. D'une part, c'est la révélation même des pensées de Dieu à l'égard du jugement divin qui fondra sur la terre, pas seulement sur le peuple d'Israël, mais sur toutes les tribus de la terre. Puis d'autre part, c'est le témoignage de Jésus-Christ. Ces deux seules expressions mettent en évidence l'importance du livre de l'Apocalypse. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt. Et d'autre part, le témoignage de Jésus-Christ pour lequel, d'une façon particulière, l'apôtre Jean avait été appelé, suscité. On a également fait remarquer le bonheur qu'il y a à lire la parole de Dieu et aussi l'ensemble des écrits prophétiques que nous avons dans cette parole. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Au chapitre 1er, il est parlé des paroles de la prophétie, l'enseignement prophétique de la parole de Dieu d'une façon générale, soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament. Alors, à la fin, dans le dernier chapitre de ce livre, il est parlé de garder les paroles de la prophétie de ce livre-là, de ce livre de l'Apocalypse d'une façon particulière. Le vœu a été également souligné que nous avons verset 4 de la part de Dieu, par le moyen de Jean, grâce et paix à vous, de la part de celui qui est, qui était, qui vient, de la part des sept esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Diverses pensées d'une haute élévation ont été exprimées par plusieurs, également dans les réunions d'hier, en rapport avec la glorieuse personne de notre Seigneur. Et tableau qui se termine par cette doxologie, la dernière, la 14e, que nous avons des doxologies du Nouveau Testament. La première étant celle qui clôt l'enseignement de Romains 11, la dernière étant celle-ci, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang, à lui la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Le mot doxologie est un mot grec qui veut simplement dire parole de gloire. Parole de gloire, parole brève, en rapport avec la personne ou de Dieu lui-même ou de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à lui éternellement, voilà ce qu'est une doxologie. Et avec le verset 7e, nous entrons vraiment dans le sujet de l'Apocalypse même d'une façon générale. « Voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. » Il vient, voilà le grand sujet du livre de l'Apocalypse d'une façon générale, mais il vient pour juger la terre. Pour juger toutes les tribus de la terre, pas seulement le peuple d'Israël, mais toutes les tribus de la terre. Il vient avec les nuées. Les frères ont rappelé les paroles mêmes de notre Seigneur en Matthieu 24, le chapitre essentiellement prophétique de ce premier évangile, où il est parlé du Fils de l'homme venant dans sa gloire avec les nuées du ciel pour juger la terre. Ce sera l'occasion d'une lamentation comme il n'y en aura jamais eu sur la terre. Les prophètes de l'Ancien Testament parlent déjà. On a rappelé ce que le prophète Amos dit. Lamentation partout, dans tous les domaines, on ne fera que de se lamenter. Le prophète Zacharie parle aussi de cette lamentation, tandis qu'on regardera vers celui qu'on aura percé. Il y aura alors cette lamentation, comme on se lamente sur la mort d'un fils unique. Il y a donc, c'est le tableau dans le livre de l'Apocalypse, c'est le tableau de l'épiphanie de notre Seigneur, tandis que le chrétien aujourd'hui attend sa parousie, le retour du Seigneur, rappelé dans nos cantiques tout à l'heure, et bien d'autre part, il y aura cette épiphanie, notre Seigneur apparaissant dans toute sa gloire, il sera alors vu du monde, il sera vu de tous, voici il vient, tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. À cet égard aussi, on a parlé d'une façon fort utile et édifiante de la grandeur de Dieu lui-même, de ses gloires diverses. Il est en effet celui qui était et qui est, qui vient, le Tout-Puissant. C'est là véritablement le tableau de la grandeur de Dieu. On a parlé du nom de Javé, et effectivement, ce nom de Javé est écrit par quatre consonnes, J-H-V-H. Est-ce que quelqu'un parmi nous peut prononcer un nom semblable? Eh bien, c'est ce que l'on voulait, que le nom de Dieu, tellement grand, tellement élevé, fut un nom inexprimable, d'où les quatre consonnes qu'il constitue. Pour s'exprimer dans la langue des hommes, il fallait bien mettre une voyelle, ce qui a donné le nom de Javé, Jah, Jéhovah. L'apôtre continue, se présentant comme étant le frère des croyants, des premiers chrétiens, qui étaient dans la tribulation. On a parlé de ce mot essentiellement matériel, tribuler le blé, ce que faisaient les agriculteurs romains autrefois, on tribulait le blé, verbe qui est devenu alors d'une portée morale, la tribulation dans le sens de la souffrance produite par la persécution. La tribulation, dans l'attente de la gloire du royaume, alors il faut attendre que le royaume vienne, d'où la pensée de la patience en Jésus dont parle l'apôtre ici. Il est donc dans l'île de Patmos pour la parole de Dieu, pour le témoignage de Jésus-Christ, et voici que dans la journée dominicale, il a été en esprit et il a entendu une voix. La journée dominicale, l'adjectif que l'on trouve deux fois dans la parole, la scène dominicale. En 1 Corinthiens 11, la journée dominicale dans notre chapitre, c'est-à-dire la journée seigneuriale, la journée qui appartient au Seigneur, ou la scène qui n'est pas notre scène, qui est la scène de notre Seigneur. On pourrait traduire très bien par cet autre adjectif seigneurial. La scène seigneuriale comme la journée seigneuriale, la journée du Maître, la journée qui appartient au Seigneur. D'une part, nous avons ces deux passages où il y a cet adjectif dominical ou seigneurial, puis d'autre part, on a également ces deux passages où il est parlé du premier jour de la semaine, jour de la résurrection de notre Seigneur, et puis le passage où, au cours de ses voyages, l'apôtre Paul s'est arrêté en Troade, où on a rompu le pain le premier jour de la semaine, et où ensuite l'apôtre a communiqué certaines révélations de la part de Dieu aux frères. Ainsi donc, un frère nous rendait attentif hier à ce séjour dans cette île dont on dit que c'est une île sauvage, l'île de Patmos, dans la journée dominicale. Cela me fait penser, cette notion de journée dominicale, cela fait penser à ce que tant de frères et de sœurs doivent connaître dans la tristesse de leur âme, privés du rassemblement à cause de l'âge avancé, à cause d'une maladie ou pour une autre raison majeure. On ne peut plus venir aux réunions et en particulier on est privé de l'heure du rassemblement pour le culte, pour l'adoration. Il y a là certainement une souffrance et c'est ce que l'apôtre Jean pouvait réaliser en la journée dominicale dans cette île de Patmos. Il entend donc une voix comme d'une trompette et que dit cette voix? Écris-le ce que tu vois dans un livre et nous avons là le sujet des chapitres 2 et 3, le sujet du témoignage chrétien. Envoie-le aux sept assemblées, Éphèse, Myrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée, cette assemblée locale d'une part, mais d'autre part, qui sont appelées à représenter le tableau du témoignage chrétien au cours des siècles. Et voici que l'apôtre se retourne, pas seulement pour entendre cette voix, il l'a entendu, mais il veut la voir. Cette voix est personnifiée, c'est notre Seigneur lui-même. Et s'étant retourné, il a vu ses lampes d'or, et au milieu des ses lampes d'or, quelqu'un le semblable au Fils de l'homme, et nous avons alors, dans les versets 13 à 16, les 9 traits appartenant à la gloire de notre Seigneur, de ce Fils de l'homme. Pour ne pas prendre trop de temps, nous n'entrons pas dans le détail de ces différents traits de gloire, une gloire infinie appartenant à Jésus seul, au Fils de l'homme, celui qui un jour a été l'homme méprisé et abaissé sur la terre, mais qui bientôt va régner, va juger la terre. Le Seigneur Jésus, au jour de sa chair, l'a dit lui-même qu'il a été donné tout pouvoir, toute autorité de juger. Le Seigneur Jésus le dit lui-même en Jean 5. Il m'a été donné toute autorité, tout pouvoir de juger, car il est Fils de l'homme. Et comme tel alors, l'homme de Nazareth, l'homme abaissé et méprisé, un jour va être vu dans sa gloire, exerçant le jugement et la juste colère de Dieu à l'égard de ses ennemis. Ces 9 traits, nous les avons vus. Une robe, tout d'abord, qui allait jusqu'aux pieds, la majesté de celui qui est le juge, par excellence. Il est parlé également d'une ceinture, et nous avons parlé de ces affections qui sont comme comprimées, comme retenues. Ce n'est plus le jour de l'amour de Dieu qui se répand à l'égard des hommes et qui veut que tous les hommes soient sauvés, mais véritablement il y a là une ceinture qui comprime la région du cœur, des sentiments, qui ne peuvent plus se donner libre cours dans le sens de la grâce, offerte aujourd'hui encore à quiconque veut bien venir à lui. Une robe, une ceinture, puis ce qu'exprime la pérennité de son être, et comme Daniel le dit déjà, en parlant de l'ancien des jours, avec une initiale majuscule, l'ancien des jours, celui qui est depuis toujours Dieu et qui est pour toujours Dieu. Il est dit de lui que ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, nous avons la personne même de Dieu. Ici, c'est le Fils de l'homme. Donc, notre Seigneur, s'il a été homme, et si maintenant il est homme, ressuscité, exalté à la droite de Dieu le Père, il est Dieu également. Il est parfaitement homme, comme il est parfaitement Dieu. Un quatrième trait, ses yeux sont une flamme de feu. Un cinquième, ses pieds semblables à de l'airain brillant, comme embrasé dans une fournaise. Il est parlé ensuite de sa voix, comme une voix de grandes eaux. Il est dit encore, en rapport avec le sujet des chapitres 2 et 3, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Il y a un huitième caractère, de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, l'épée, expression, symbole du jugement de Dieu. On a rappelé ce que Job peut dire quand il dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». D'un autre côté, il invite ceux qui sont près de lui à trembler en pensant au juste jugement de Dieu. Trembler devant l'épée, qui est l'instrument de la fureur des iniquités, afin que vous sachiez, dit Job, qu'il y a un jugement. Le livre le plus ancien de la parole de Dieu nous parle déjà de cette épée, et voici le dernier livre de la Révélation qui nous parle encore de sa bouche, d'où sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et enfin, neuvième caractère, son visage. Il est comme le soleil quand il luit dans sa force. Cela, chers amis, nous fait penser aux dernières paroles du cantique remarquable de la prophétesse Déborah. Qu'est-ce qu'elle dit? Au dernier verset du cantique qu'elle exprime en Juges 5, en Juges 5, verset 31, après avoir célébré la défaite des ennemis comme la victoire de ceux qui appartiennent à Dieu, qu'ainsi périssent tous tes ennemis, ô Éternel, mais que ceux qui t'aiment soient comme le soleil quand il sort dans sa force. D'une part, notre Seigneur, son visage, comme le soleil quand il luit dans sa force. Et d'autre part, cela exprimé déjà dans un ancien livre de l'Ancien Testament, que tous ceux qui t'aiment soient comme le soleil quand il sort dans sa force. D'une part, la gloire de notre Seigneur, et d'autre part, le Seigneur associant les siens vainqueurs sur cette terre. Il les associe à sa gloire, selon le vœu exprimé par Déborah, que ceux qui t'aiment soient comme le soleil quand il sort dans sa force. C'est là ce tableau formé de 9 traits, ce tableau de la gloire infinie de notre Seigneur. C'est toujours d'une façon très respectueuse que nous devrions aborder de tels versets et les lire si nous sommes appelés, par exemple, à lire un tel passage dans l'Assemblée. Alors, dans les derniers versets que nous n'avons pas encore vus et qui sont là comme une introduction au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, que fait l'apôtre? Quelles sont ses réactions en présence d'une telle gloire? Mais l'apôtre Jean a connu le Seigneur Jésus marchant sur cette terre, un homme au milieu des hommes, dans l'abaissement, méprisé des enfants des hommes. Puis, cette même personne qu'il a ainsi connue, il la voit couronnée de gloire et d'honneur. Lorsque je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il mit sa droite sur moi. N'aie pas peur, Jean. N'aie pas peur. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'ai été mort. Je suis devenu cela, homme, pour pouvoir souffrir, pour pouvoir mourir. J'ai été mort, mais je suis vivant au siècle des siècles, et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Eh bien, écris les choses que tu as vues, les choses qui sont, les choses que tu as vues, la gloire merveilleuse du Seigneur, les choses qui sont, l'histoire du témoignage chrétien au cours des âges sur la terre, et enfin, les choses qui doivent arriver après celles-ci, c'est-à-dire qui commencent au chapitre 4e et qui sont le sujet proprement dit de la prophétie de l'Apocalypse. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma droite et les 7 lampes d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées et les 7 lampes sont 7 assemblées. Des lampes d'or, parce que l'Église est établie par Dieu lui-même, sa nature intrinsèque correspond à celle de Dieu. C'est de l'or, le métal, un des métaux les plus précieux qui soient. Et puis, d'un autre côté, ce sont les anges des étoiles, les assemblées des lampes. Il y a donc une lumière qui doit se propager, qui doit se répandre. Et l'Église a été appelée à cela, répandre la lumière de Dieu, répandre la lumière du beau nom du Seigneur, de celui qui est son chef. Voilà l'enseignement des sept étoiles et des sept lampes d'or qui sont cette assemblée.
Il tombe comme mort devant la gloire de celui qu'il vient de voir. Et celui qu'il vient de voir étend sa main, il mit sa main droite sur lui. Et le Seigneur Jésus ne le laisse pas dans cet état-là, il vient se révéler à lui. Ne crains point, moi je suis, moi je suis. Et il entend non pas la voix des grandes eaux dont il était question au verset 14, mais la voix de son Seigneur. Moi je suis le premier et le dernier. Et là, il se révèle à lui dans la gloire de sa divinité. Dans le prophète Ésaïe, au chapitre 44, au verset 6, « Ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël, son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a pas de Dieu. » Ésaïe 44, verset 6. La gloire de sa divinité, « Je suis le premier et je suis le dernier. Il n'y a pas de Dieu hors moi. » Et le vivant, celui qui vit à jamais. Mais j'ai été mort et je suis vivant au siècle des siècles. Il lui parle de la gloire de sa rédemption. J'ai été mort et je suis ressuscité. Et je tiens les clés de la mort et du Hadès. Il lui parle de la gloire de sa toute-puissance, de sa domination infinie. Et c'est celui-là qui se présente devant Jean. Mais celui-là aussi qui lui dit « ne crains pas ». Celui qui a toute cette gloire, cette puissance qu'on a vue, cette gloire judiciaire dans les versets 13 à 16, c'est celui qui lui dit « ne crains pas », c'est celui qui nous dit « ne crains pas ». Et certainement, il faut aussi garder cette pensée devant nos cœurs. Ne pas oublier qui est cette personne dans sa grandeur, qui est aussi cette personne dans ses soins et dans son amour pour nous. Dans les sept églises, les sept assemblées qui nous sont présentées, elles sont des lampes qui sont des lampes d'or. Elles sont placées sur la base de la justice de Dieu. Ce sont des lampes qui doivent éclairer. Elles ont été placées par Dieu pour donner la lumière de Dieu. Et le Seigneur vient au milieu de ces lampes avec tous les caractères que l'on a vus dans versets 13 à 16. Il vient pour voir et sonder ce qu'il y a dans les cœurs. Et il vient aussi pour agir afin que la lumière de ces lampes brille à nouveau. Pour voir comment ces lampes brillent. On aura certainement l'occasion de revoir un peu ces sept assemblées, mais avant de commencer, peut-être de voir en détail ces chapitres, j'aimerais dire ce que ces chapitres ne nous présentent pas, les chapitres 2 et 3. On peut tordre les Écritures et les sortir de la perspective dans laquelle elles nous sont données. Et nous avons vu hier dans quel but l'Apocalypse était écrite. Et nous avons vu aussi que, contrairement aux épîtres de l'apôtre Paul, quand l'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, Il apportait des paroles d'exhortation, il apportait des paroles de doctrine, il donnait des enseignements quant à la marche d'une façon pratique, quant à la doctrine, quand on lit l'Épître aux Éphésiens, par exemple, quant à notre position. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il y a dans ces chapitres ici. Le livre de l'Apocalypse est un livre prophétique. Et si d'un côté, les sept églises qui sont présentées là, les sept églises d'Asie, ces sept églises, elles ont existé, elles vivaient au même moment. L'enseignement qui leur est apporté, ces lettres qui leur sont écrites, sont des paroles qui les sondent, mais c'est aussi vu dans un sens prophétique. Alors, il y a peu de temps, j'ai entendu quelqu'un qui contestait et qui disait ceci. C'était sept églises qui vivaient au même moment et qui avaient un caractère différent. Il est bien clair que Éphèse ne ressemble pas à Laodicée, Laodicée ne ressemble pas à Philadelphie, ni à Thyatire. Et on disait ceci, voyez, le Seigneur vient, elles sont ensemble, elles vivent au même moment, et il ne dit pas qu'il faut que les unes doivent se séparer des autres. Et on attaquait la notion de se séparer du mal. On contestait ce que nous avons comme enseignement dans la deuxième épître à Timothée. Et en posant des questions, on dit, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire là? Et lorsque l'on voulait dire, c'était qu'actuellement, il y a dans le monde chrétien, différentes églises qui portent des noms, et ces différentes églises, qui s'appellent églises d'elles-mêmes, si j'ose dire, et qui ne sont pas l'église du Seigneur, dans ces différentes églises, il est bien clair qu'il y a des croyants, et que l'ensemble des croyants qui sont là forment le corps de Christ, c'est sûr. Mais chaque église n'est pas une partie du corps de Christ, cela est faux. Et ici, quand l'enseignement que nous avons ici, dans l'Apocalypse, il ne nous est pas du tout présenté ces différentes églises comme différentes parties du corps de Christ. Ce n'est pas l'enseignement de l'Apocalypse. L'Apocalypse est un livre prophétique. Et si, dans un sens, sept églises vivaient au même moment, la preuve de la perspective prophétique qui nous est présentée, c'est d'abord la manière dont le Seigneur se présente. C'est ensuite le fait que ces églises sont... Tout ce qui nous est présenté à propos de ces églises est aussi typique. Ce sont des images, des lampes d'or. C'est quand même un langage symbolique que nous avons dans l'Apocalypse. Et puis, d'un autre côté, ces églises qui ont vécu au moment de l'apôtre Jean, elles existaient. Il est dit aux dernières églises, le Seigneur se présente comme celui qui vient pour nous chercher. Il parle de son retour. Et il dit, par exemple, il dit à Philadelphie, il dit « Je viens bientôt » et combien cela console nos cœurs. Mais est-ce que les chrétiens qui vivaient à Philadelphie au temps de l'apôtre Jean ont vu le retour du Seigneur? Non. Et actuellement à Philadelphie, il n'y a pas d'assemblée. C'est un pays musulman. Donc ce qu'il dit là, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Mais c'est vrai ce qu'il dit, le Seigneur, je viens bientôt. Mais c'est vu dans un sens prophétique pour l'avenir et non pas pour l'histoire propre de l'église de Philadelphie qui vivait au temps de l'apôtre Jean. Alors prenons garde, en nous approchant de la parole de Dieu, de garder toujours la perspective dans laquelle les choses nous sont présentées par l'Esprit de Dieu pour ne pas tordre ce qui nous est dit et pas sortir une parole pour la faire cadrer avec ce que nous croyons, ce que nous aimerions penser. Et de notre côté alors, quand on voit aussi ces côtés prophétiques de ces sept églises, il y a aussi au milieu de ce côté prophétique un enseignement moral. Et dans chaque église, bien que cela, chaque église, on va le voir, nous parle de différentes parties dans l'histoire de l'église et de chaque église, dans chaque église, il y a des paroles d'exhortation, il y a un enseignement moral qui nous parle, qui parle à notre conscience. Et on aura certainement l'occasion, si le Seigneur le veut, de voir cela aussi. Il ne faudrait pas qu'on considère ces sept églises comme on considérerait un texte d'une façon extérieure à nous-mêmes. Chaque fois, le Seigneur sonde les cœurs et les reins, et en lisant cela, le Seigneur veut sonder nos cœurs, nous mettre devant la lumière de sa face, pour nous dire, est-ce que tu m'aimes? Pour nous dire, est-ce que tu es fidèle? Pour nous dire, est-ce que tu gardes ce que je t'ai confié? Pour nous dire, est-ce que tu es vraiment vivant? Est-ce que vraiment tu as la vie? Est-ce que tu manifestes cette vie? Pour nous dire, est-ce que vraiment tu m'aimes? Est-ce que vraiment tu gardes ma parole? Est-ce que vraiment tu n'es pas plein de prétentions? Est-ce que vraiment tu ne penses pas être riche alors qu'en fait tu es pauvre et faible? C'est bien cela qu'il vient nous dire dans tous ces chapitres. Alors, de notre côté aussi, dans chaque épître, il y a un plan. Le Seigneur se présente sous un caractère. Et dans chaque épître, il se présente sur un caractère qui parle à ceux qui sont à qui il s'adresse, qui vient les sonder. Ensuite, il va dire « je connais » ou « je sais ». Alors, en lisant cela, il faut bien penser que notre Seigneur nous dit « je connais ton cœur, je connais, je sais ce que tu fais, ce que tu es ». Puis il va dire aussi « j'ai contre toi, je connais l'extérieur, je sais ce qu'il y a dans ton cœur ». Il va le dire dans presque toutes les épîtres, sauf à Smyrne et à Philadelphie. Et puis il va donner aussi une parole d'exhortation, un remède au problème ou une consolation par rapport à la difficulté dans laquelle on est. Alors, on va écouter ou ne pas écouter cette parole d'exhortation. Et celui qui écoute, alors, il est le vainqueur. Et il va ensuite donner une parole d'avertissement qu'on va retrouver dans chaque épître, placée d'une façon différente, on le verra, que celui qui a des oreilles écoute. Donc cette exhortation s'adresse non pas à l'ensemble, mais à chaque individu. Toi, tu as des oreilles. Alors écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Et combien ça serait bien, dans les jours, aujourd'hui, nous sommes là pour lire ces passages, que chacun de nous, nous soyons vraiment attentifs. Est-ce que nous sommes prêts, chacun, chaque frère, chaque sœur, jeune et moins jeune, est-ce que nous sommes prêts à écouter que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées? Et puis, il est aussi question du vainqueur, à celui qui vaincra. Non pas à ceux qui vaincront, mais à toi. Toi, est-ce que tu veux être un vainqueur? Et pour être un vainqueur, alors, il faut que notre cœur soit ouvert, nos oreilles ouvertes pour écouter ce que l'Esprit dit aux assemblées.
Notre frère vient de nous dire qu'on ne peut jamais séparer les assemblées, les unes des autres. Et il semble que dans ces deux chapitres, nous avons un petit mot qui confirme cette pensée. À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse. Il n'est pas dit à l'ange de l'assemblée de l'Éphèse, ou de Smyrne, ou de Pergame, ou de Thyatire, mais qui est à Éphèse, qui est à Smyrne, qui est à Pergame et qui est à Thyatire. Je dis ceci parce que, un jour, dans une lettre de recommandation, les frères avaient écrit en recommandant un frère, à l'adresse de ce frère, qu'il faisait partie de l'assemblée de Jumet. Alors un cher frère, Monsieur Paul Fugier, que nous avons connu, qui est maintenant auprès du Seigneur, m'a fait cette remarque. On n'est pas membre d'une assemblée locale. On est membre de l'assemblée. L'assemblée est universelle. L'assemblée est indivisible. Mais il semble bien que cette petite expression que nous avons à l'adresse de chaque assemblée souligne bien cette pensée. On ne peut pas dire « je fais partie de l'assemblée de Jumet » ou « de l'assemblée de Paris » puisque nous avons plusieurs amis qui viennent de Paris aujourd'hui, ou « de l'assemblée de Pâturage », mais « de l'assemblée à Jumet » ou « à Paris » ou « à Pâturage ». L'ange de l'assemblée qui est à Éphèse. Un peu plus loin, au verset 8, l'ange de l'assemblée qui est à Smyrne, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du chapitre 3. L'assemblée est donc indivisible. Dans le chapitre 16 de l'évangile selon Matthieu, où le Seigneur parle la première fois de l'assemblée, il parle de son assemblée. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une seule. Sur ce roc, dit-il, je bâtirai mon assemblée. Éphésiens 5, passage que nous connaissons bien. Christ a aimé l'assemblée et se livrer lui-même pour elle. Alors je voudrais, excusez-moi de revenir un petit peu en arrière, mais je voudrais souligner les trois divisions de ce livre que nous trouvons dans le verset 19 du premier chapitre. Et citer trois passages de l'Écriture. Écrit au verset 19, écrit les choses que tu as vues. Les choses que tu as vues. Donc, on l'a déjà fait remarquer, c'est le chapitre premier. Et nous avons au verset 11 de ce chapitre, ce que tu vois, écris-le dans un livre. C'est la première division de l'Apocalypse. Et puis la deuxième est les choses qui sont. Le passage que nous venons de citer au verset 1er du chapitre 2 à l'assemblée qui est à Éphèse. Les choses qui sont. Alors la troisième partie, n'est-ce pas, eh bien, commence au chapitre 4. Et ce sont les jugements qui vont tomber sur les coupables et les choses qui vont arriver après celles-ci. Et nous lisons au chapitre 4, à la fin du verset 1er, « Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celles-ci. » Voilà donc les trois divisions de l'Apocalypse qui sont bien marquées. Je voudrais aussi poser une question, une simple question aux frères, n'est-ce pas? Il y a ici sept assemblées qui sont en Asie. Répétons-le, non pas sept assemblées d'Asie, mais sept assemblées qui sont en Asie. C'est une seule assemblée, c'est un seul troupeau, et il y a un seul pasteur. Il y avait pourtant plus de sept assemblées, semble-t-il, en Asie, et qui ne sont pas citées ici. Il y avait Colosse, qui n'était pas bien loin d'Éphèse. Il y avait Hierapolis, que nous trouvons dans l'Épître aux Colossiens. Alors pourquoi ces deux assemblées ne sont-elles pas nommées? Est-ce que nous n'avons pas la pensée ici que Dieu veut nous donner quelque chose de complet, quelque chose d'entier? Parce que nous savons que le nombre 7, et le chiffre 7 est le chiffre de la perfection spirituelle. C'est le chiffre de Dieu. Ne semble-t-il pas que Dieu veut nous donner quelque chose de complet? Un cycle complet de l'histoire de l'Assemblée depuis le commencement, Éphèse, jusqu'à la fin, la Odyssée. On rencontre souvent le chiffre 7 dans le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Il y a donc ici cette Assemblée. Dans le chapitre 5, nous voyons l'agneau qui a sept cornes et sept yeux. Il est parlé aussi de sept esprits de Dieu qui sont envoyés sur toute la terre. À partir du chapitre 6, sept sceaux sont ouverts, et puis sept trompettes sonnent, et puis sept coupes sont versées. Nous rencontrons souvent le chiffre 7. Dans le livre de l'Apocalypse. Et il semble que Dieu veut nous donner ici, dans ces sept assemblées, un cycle complet de l'histoire de l'Église sur la terre. Dieu donne toujours quelque chose de complet.
Je vais m'arrêter sur une expression si souvent entendue par Jean. Moi, je suis. Dans son évangile, il le répète au moins 9 fois. Moi, je suis. Je suis la porte, je suis le bon berger, je suis le pain vivant qui descend du ciel, je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité, la vie. Voyons donc le Seigneur qui s'adresse souvent de cette manière à des personnes ou à un auditoire. Et je voudrais un peu revenir sur ce qui a été dit hier en parlant des âmes qui pourraient se trouver ici, étant encore étrangère aux appels de la grâce. Il nous a été parlé que le Seigneur allait apparaître. Voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Alors il y aura la lamentation qui sera la part de certaines tribus de la terre, et en particulier du peuple d'Israël. Mais je ne voudrais pas que certaines personnes, certains jeunes gens, s'en aillent avec des illusions. Ah, mais il sera encore temps quand je verrai le Seigneur dans sa gloire. Eh bien, nous avons le deuxième chapitre de l'Épître aux Thessaloniciens qui vient nous confirmer qu'il n'en sera pas ainsi. Quand le Seigneur sera venu pour enlever son Église, sans doute il apparaîtra, deuxième acte de sa venue, il apparaîtra en gloire, tout œil le verra, mais ceux qui ont entendu l'Évangile de la grâce, il est dit pour eux, ils recevront de la part de Dieu lui-même une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge, parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir le témoignage de la vérité. C'est une chose terrible, chers enfants de chrétiens, chers amis qui pourraient se trouver ici et qui seraient comptés au nombre des ennemis du Seigneur, au nombre de ce que la parole appelle des méchants. Puissiez-vous donc écouter la voix de celui qui peut dire « Moi, je suis le bon berger ». Il y a un passage aussi qui m'a frappé quand il a dit « à celui qui nous aime ». Et sachez bien qu'il en est de même pour chacun d'entre nous, croyons ou incroyons. Le Seigneur nous aime tous et il a donné sa vie pour nous. Mais êtes-vous lavé de vos péchés dans son sang? Est-ce que réellement vous avez eu affaire au Seigneur? Confessons ainsi votre misère et écoutons la voix de celui qui passe encore en grâce et qui demain, hélas, sera votre juge. Sera votre juge. Tenez compte de ces paroles qui vous sont enseignées et de ce que la parole nous enseigne, car après la venue du Seigneur pour enlever les siens, il y aura encore de l'espoir pour certaines tribus de la terre, mais il n'y aura plus d'espoir, plus aucun espoir. Ce sera un jugement sans appel pour ceux qui aujourd'hui refusent le message de la grâce.
L'expression que le Seigneur emploie souvent, « Je suis », dans l'Évangile selon Jean en particulier, « Je suis » ou « C'est moi » correspond à la parole rappelée hier après-midi, « Quel est ton nom ?»« Mon nom est « Je suis celui qui suis ». Dieu depuis toujours, Dieu pour toujours. « Je suis le premier et le dernier ». Trois fois, nous avons cette expression dans le livre du prophète Ésaïe, et deux fois, dans ces trois expressions, deux fois, l'expression « Je suis le premier et le dernier » est associée et liée au titre « Le même », précisément quand il est si souvent dit dans l'Ancien Testament « Je suis le même », c'est « Je suis celui qui suis », c'est le « Je suis de notre Seigneur bien-aimé sur cette terre ». Je suis la résurrection et la vie, je suis le pain du ciel, et tant d'autres passages de ce quatrième évangile. Dans le livre du prophète Ésaïe, donc trois fois, nous avons ces mots. Chapitre 41, tout d'abord, il nous est dit ceci, verset 4, « Qui a opéré et fait cela ?» appelant les générations dès le commencement, moi, l'Éternel le premier, et avec les derniers, je suis le même. Puis le passage notre frère a rappelé au chapitre 44e, au verset 6, « Ainsi dit l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a pas de Dieu. » Et enfin, troisième passage, au chapitre 48e, où il y a également la liaison avec le titre le même, verset 11e, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, écoute-moi Jacob, et toi Israël que j'ai appelé, moi je suis le même, moi le premier, moi le dernier, moi le premier, à l'origine de toute chose, de toute personne, celui qui donne la vie, celui qui crée toute chose, et puis celui qui aura le dernier mot, comme déjà le patriarche d'autrefois a pu dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il sera debout sur la terre, ayant remporté la victoire par les saints jugements de Dieu, sur toute créature, soit en Israël, soit parmi les nations. Nous entrons dans le sujet de la première épître mentionnée au chapitre deuxième. D'abord, une petite constatation, l'ordre général. Notre frère en a déjà parlé. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des sept lampes d'or. Et ensuite, nous avons la pénible description du déclin de l'Église au cours des âges. Il y a une grande tristesse, chers amis, qui se dégage de la méditation, de la lecture de ces sept épîtres. Deux épîtres mises à part, Smyrne et Philadelphie, où il n'y a pas de reproche énoncé par le Seigneur. Mais autrement, il y a là le tableau d'un triste déclin jusqu'à la Odyssée. Mais remarquons, s'il y a déclin, c'est de la part des témoins du Seigneur. Quant au Seigneur lui-même, il ne change pas. Quand il est question du grand réveil, de ce qui a suivi le réveil de la Réformation et qui est représenté par Sardes, au chapitre 3e, qu'est-ce qu'il est dit? L'ange de l'assemblée qui est à Sardes écrit « Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. » C'est un peu le rappel de la présentation du Seigneur à Éphèse. Au cours des âges, le témoignage chrétien a décliné, décliné, il décline encore, mais quant au Seigneur, rien ne change. Il est toujours le même, absolument invariable, immuable. À Éphèse, il peut dire « Je tiens les sept étoiles dans sa droite », à Sardes, « Celui qui a les sept esprits de Dieu », le Saint-Esprit ne change pas, il est toujours puissant. Notre cher frère, M. Louis Chaudier, aimait à dire ceci, le Saint-Esprit au jour d'aujourd'hui est aussi puissant qu'au matin de la Pentecôte. Aucun changement du côté de Dieu. Il est toujours celui qui a les sept esprits de Dieu, il est celui qui a les sept étoiles. Le changement est de notre côté. Triste variation. Nous sommes la variabilité même, mais du côté du Seigneur, aucun changement, aucune ombre de changement en lui. Que doit écrire alors l'apôtre? Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des sept lampes d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience. Il y avait donc des œuvres accomplies, il y avait un travail réellement effectué, il y avait même une patience réalisée. Et le Seigneur se plaît à reconnaître cela à Éphèse. Mais le caractère spirituel de ces œuvres, de ce travail, de cette patience n'existe plus. Ce qui existait au jour, par exemple, du témoignage à Thessalonique, quand il est dit, en 1 Thessaloniciens 1, le passage connu de chacun, 1 Thessaloniciens 1, verset 3, « Nous souvenons sans cesse de votre œuvre de foi, de votre travail d'amour et de votre patience d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ. » À Éphèse, il y avait des œuvres, c'était réel. On faisait quelque chose, on n'était pas paresseux. Il y avait un travail effectué, il y avait même une patience réalisée. C'est pas peu de choses quand on peut dire d'un frère que c'est un homme patient, d'une sœur vraiment elle est patiente, c'est pas peu de choses. Le Seigneur le reconnaît à Éphèse, mais alors, ce qui est de première importance, le caractère spirituel de ses œuvres, la foi, de ce travail, l'amour, de cette patience, l'espérance, votre patience d'espérance de notre Seigneur Jésus-Christ devant notre Dieu Père. Eh bien, cela, chers amis, véritablement avait comme disparu. En tout cas, le Seigneur n'en parle pas concernant Éphèse à ce moment-là, au jour de l'apôtre Jean. Des œuvres, du travail, de la patience, oui, mais la foi, où était-elle? L'amour, où était-il? L'espérance, comment était-elle réalisée? Cela, le Seigneur n'en parle plus. Et cela doit nous montrer, chers amis, combien sont importantes la foi, l'amour et l'espérance, les trois vertus dites théologales ou cardinal du christianisme. Cela est important, et ceci doit caractériser nos œuvres, notre travail et notre patience.
Il est bien évident, chers amis, que la parole de Dieu est un miroir. Elle s'adresse d'abord à chacun de nous, dans les lettres de l'Apocalypse, comme dans toute autre partie. Disons donc que la parole de Dieu s'adresse à chacun de nous, à chacun des lecteurs de la parole de Dieu. Il est bien évident qu'il y avait plus que sept assemblées en Asie. Il a déjà été fait allusion à ce fait. Mais ce n'est pas étrange quand nous comprenons spirituellement l'intention de l'Esprit de Dieu de nous donner dans sept assemblées, sept états distincts dans lesquels nous pouvons trouver une application pour chacun de nous. À un moment donné, notre état peut correspondre à ce qui est donné, ce qui est enseigné, ce qui est repris dans une assemblée. Une assemblée également, à un moment donné, peut être caractérisée par une déclaration qui se trouve dans une de ses lettres. Petite parenthèse, il peut arriver d'ailleurs que la lampe soit ôtée dans une assemblée et que les choses continuent à se dérouler normalement. Personne sans doute ne peut s'en apercevoir. Ce n'est pas un ustensile physique, une lampe que l'on ôte, évidemment, on s'en rend bien compte. Mais moralement, spirituellement, une assemblée, chers amis, c'est très solennel, peut se trouver dans la situation où elle est privée d'être une lampe, elle est empêchée, la lampe s'en est allée, peu à peu sans doute, mais le Seigneur a retiré ce qui la caractérise comme un témoignage. Il se peut, il est arrivé qu'une assemblée retrouve ce caractère d'être une lampe, mais c'est solennel de penser que le Seigneur peut ôter sa lampe. Nous ne devons pas croire que les choses vont toujours marcher de la même manière, quel que soit notre état, et que la gloire du Seigneur, ou bien nous allons être comme les Juifs. Nous allons dire, le temple, mais les armées de Nebuchadnezzar étaient aux portes de Jérusalem. Quand ils se vantaient d'avoir le temple de l'Éternel, comme si c'était une donnée permanente que rien ne pouvait affecter. Donc une chose que nous pouvons aussi noter. En même temps, il est bien évident que dans chacune des assemblées, il y a là un état des pains qui correspond à une période de l'Église. Mais l'Esprit de Dieu ne trahit pas un seul instant que cette période doit être longue, parce que la venue du Seigneur est présentée à chaque croyant, à chaque assemblée, comme devant survenir aujourd'hui même. Et l'Esprit de Dieu ne laisse pas un instant cette possibilité d'admettre, de penser ou d'établir que le Seigneur ne viendra qu'à la fin d'une longue période. Elle a été longue, mais le temps est proche. Le temps n'est pas venu, mais le temps est proche. Il était déjà proche au jour de l'apôtre Jean, à la fin du premier siècle. Que dire aujourd'hui? Encore un mot à l'ange de l'Assemblée. Nous l'avons bien compris tous, nous sommes bien accoutumés à entendre parler de ces choses, que l'ange n'est pas du tout un ange virtuellement établi. Jamais l'homme n'est amené à donner des enseignements à un ange. Mais un ange, souvent, est amené à parler à un homme de la part de Dieu. De sorte qu'à l'ange de l'Assemblée, il ne faut pas du tout croire qu'il s'agit d'un ange, d'un personnage mystérieux, d'un personnage surnaturel. C'est un représentant, c'est un messager, c'est quelqu'un qui est responsable, particulièrement responsable de l'état de choses de l'Assemblée à laquelle il appartient. Dans l'Assemblée locale, bien entendu. Il est bien évident qu'un jeune garçon, un jeune homme, n'a pas la responsabilité d'un homme âgé. Chacun, nous avons une responsabilité dans l'Assemblée, et la responsabilité de ceux qui sont à la tête est particulièrement sensible. Pour étayer cela, nous lisons un passage du livre des Nombres, pour montrer que la partie responsable d'une Assemblée est visée particulièrement par le Seigneur dans le cas qui nous occupe maintenant. Nous lisons dans Nombre 18. Nombre 18. Et l'Éternel dit à Aaron, toi, Aaron. Vous voyez, le représentant de la sacrificature, le chef de la sacrificature, est d'abord présenté devant nous comme étant celui à qui l'Éternel s'adresse personnellement. Toi et tes fils et la maison de ton père avec toi, vous porterez l'iniquité du sanctuaire. Toi et tes fils, vous porterez l'iniquité de votre sacrificature. Vous voyez là, famille sacerdotale, Nombre 18, il est bien indiqué que tout ce qui concernait la sacrificature, son état, en fait, était imputé à Aaron, toi et à ses fils. Donc, à ceux qui étaient établis par Dieu, au milieu du peuple, dans une position de responsabilité, c'est sur eux que retombait la responsabilité de l'état d'ensemble. Encore un mot, chers amis. Nous ne voulons pas être longs, mais il faut se dire que, avec l'assemblée d'Éphèse, nous avons une parabole. Elle a déjà été souvent présentée. La première fois que nous avons l'assemblée d'Éphèse, c'est dans le livre des Actes, évidemment, c'est au cœur du Nouveau Testament. Déjà, la position centrale de cette Église dans le Nouveau Testament est un indice, un symbole. Nous l'avons au milieu du livre des Actes, milieu du Nouveau Testament. L'apôtre est passé venant de Corinthe à Éphèse, il y a laissé Aquila et Priscilla, comme nous le savons dans le chapitre 18, et une assemblée était formée. Nous sommes au moment de la première visite de l'apôtre en l'an 54. Faut retenir cela. En l'an 54 de notre ère, autant que les frères qui ont fait des recherches, les frères savants ont pu l'établir, on est aux environs de 54 au moment où Paul aborde à Éphèse. En 58, nous avons le sujet de Acte 20. Paul accomplit son troisième voyage, et pressé comme il l'est, il envoie chercher des anciens d'Éphèse qui viennent à Milet. Et là, dans un cadre nouveau, spécialement différent pour eux, l'apôtre va leur parler de toutes les conditions de l'assemblée qui sont une préoccupation pour lui et qui doivent être maintenant pour eux un appel très pressant, un appel solennel. Donc, première chose, l'assemblée a reçu la visite de l'apôtre. Deuxième chose, les anciens, partis responsables de cette assemblée, ont été invités par l'apôtre pour venir d'Éphèse à Milet, où il leur a présenté un discours extraordinairement précis. On peut lire ce chapitre 20, et on voit que Paul a passé une bonne partie du voyage seul, séparé de ses amis comme il l'avait demandé, pour bien peser chaque terme qu'il allait employer auprès d'eux. Pendant ce long voyage d'une cinquantaine de kilomètres qu'il a fait, comme nous le trouvons dans ce chapitre 20, eh bien, il a pu penser, il a pu réfléchir, étant seul, sans avoir à se préoccuper d'un compagnon quelconque, il a préparé ce discours, et ce discours est un modèle de précision. Il y a 7 choses essentielles que l'apôtre va leur dire. Mais ce n'est pas le sujet que nous avons maintenant. Mais nous retenons que en 58, alors, nous avons l'appel fait aux anciens d'Éphèse. En 63, nous avons alors, à une année près sans doute, la rédaction de l'épître qu'il envoie à cette assemblée d'Éphèse. Donc vous voyez, nous avons la visite de l'apôtre, nous avons des anciens qui ont été convoqués, qui reçoivent la communication d'un appel très important. La troisième chose, la lettre que Paul leur envoie. En fait, la lettre dans laquelle Paul a la liberté, étant donné le bon état de cette assemblée, de déployer le conseil de Dieu dans toute sa richesse. Faut retenir cela. En 63, la lettre que Paul leur envoie, autrement dit, la parole de Dieu. La vie de l'apôtre, les anciens, la parole de Dieu. En 67, nous avons alors le ministère des envoyés de Paul à Éphèse. Je t'ai laissé à Éphèse afin que, première lettre que l'apôtre écrit à Timothée. Donc, il y a eu des envoyés de l'apôtre, il y a eu des personnes qualifiées pour parler de la part de l'apôtre à l'assemblée. Deuxième épître à Timothée, Tychique a été envoyé à Éphèse. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, chers amis? 25 ans plus tard, au moins 25 ans plus tard, nous avons alors une nouvelle lettre, non plus la lettre de Paul que nous avons évidemment évoquée tout à l'heure, mais la lettre de Jean. Vous voyez quelle longue période, depuis le commencement de l'histoire de l'Église d'Éphèse, jusqu'au moment où dans l'Apocalypse, nous sommes donc vers les années 95, comme on le suppose généralement. Donc nous avons 40 ans plus tard, à partir du moment où Paul est venu à Éphèse, a prêché l'Évangile, 40 ans plus tard, nous avons la lettre qu'il adresse à Éphèse. Qu'est-ce qu'il faut conclure, chers amis? Il faut conclure que ce qui a été confié à l'homme, dans tous les temps, dans tous les cas, n'a pas pu se maintenir à la hauteur des privilèges qui avaient été confiés. Vous voyez, 40 ans après, les personnes fidèles à Éphèse, quand ils ont entendu l'ange, le lecteur de l'assemblée, celui qui avait la charge de lire cette lettre, les personnes fidèles, pieuses, tendaient l'oreille. Et puis l'apôtre dit, tout ce qu'il y a de bien dans cette assemblée, c'est la méthode de Dieu. Et ensuite, l'apôtre dit, mais j'ai contre toi. On se rend compte, chers amis, que les frères et les sœurs fidèles ont tendu l'oreille. Que va-t-il nous dire? Ce que nous avons à déplorer aujourd'hui, sans doute.
Quand on lit le début de cette lettre de Jean et que l'on pense un peu au message de l'apôtre Paul aux anciens d'Éphèse, on peut se dire, ils ont bien gardé ce que l'apôtre Paul leur avait dit. L'apôtre Paul leur avait dit de prendre garde à eux-mêmes et il y allait avoir des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, des hommes qui se lèveraient parmi eux pour attirer des disciples après eux. Et ils ont veillé là. Tu as éprouvé ce qui se disent apôtres. Tu les as trouvés menteurs. Ils ont bien gardé cela. Tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Ah, ils ont bien veillé, c'est sûr. Ils avaient gardé certainement en partie ce que l'apôtre Paul leur avait donné. L'apôtre Paul aussi les avait exhortés. Il avait montré ses mains avec lesquelles il avait travaillé. Il leur avait dit, il est plus heureux de donner que de recevoir, voilà ce qu'a dit le Seigneur. Alors, ils avaient travaillé, je connais ton travail, ta patience. Ils avaient gardé cela. Mais dans l'épître aux Éphésiens, il y avait, vous savez, au milieu de cette épître, avant d'aborder la partie pratique de l'épître, l'apôtre Paul plie ses genoux devant Dieu, se met à genoux devant Dieu pour prier. Il y a, au début de l'épître, il est question d'être assis dans les lieux célestes en Christ. Et puis ensuite, il est question de la marche à partir du chapitre 4. Il est question du combat. Et avant de marcher, avant de combattre, en réalisant sa position en Christ, première chose, on ploie les genoux devant Dieu pour le demander le secours. Et l'apôtre Paul avait ployé ses genoux devant Dieu. Et qu'avait-il demandé? Il avait demandé dans Éphésiens 3, « Je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être fortifié en puissance par son esprit quant à l'homme intérieur, de sorte que le Christ habite par la foi dans vos cœurs. » L'action du Père, l'action du Saint-Esprit, l'action du Fils habitant par la foi dans leur cœur, des ressources infinies. Et qu'est-ce qu'il désirait? En sorte que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés, comme un arbre qui prend sa sève, sa force dans l'amour. Enracinés de telle manière qu'il y ait la vie qui découle de cela. Et fondés comme un bâtiment qui est solidement fondé sur un roc inébranlable, enraciné et fondé dans l'amour. Et ensuite, pour que vous compreniez quelle est la grandeur, de tous les conseils de Dieu, de la grandeur de la divinité, étant comme mis au centre de ses conseils et admirant quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur. On est là au milieu de ces conseils de Dieu que l'on admire, l'immensité de ce que Dieu est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a prévu, de ce qu'il a prévu pour son Fils, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Connaître cet amour, être enraciné et fondé dans l'amour, voir l'immensité des conseils de Dieu, connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Il y avait cette prière de l'apôtre Paul. Et il y avait aussi les ressources de Dieu, celui qui peut faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Et ce que Dieu fait en nous est plus important que ce que nous faisons pour lui. Mais ce qu'il fait en nous, ça c'est la source, produira des fruits, un travail pour lui. Et les Éphésiens avaient continué à travailler, ils avaient continué à se dévouer, ils avaient continué à montrer de la patience, mais ils étaient coupés de la source. Tu as abandonné ton premier amour. Et qu'est-ce que c'est le premier amour? Est-ce que c'est l'amour qu'on a eu en premier? Non, c'est pas ça. C'est quelles sont les priorités dans ma vie? Est-ce que le Seigneur a la première place? Vous vous souvenez, un jour, le Seigneur a dit à un homme, « Toi, suis-moi. » Et il a dit, « Permets-moi premièrement d'aller enterrer mon père. » Et l'autre a dit, « Permets-moi premièrement de prendre congé de ceux de ma maison. » Est-ce que c'était normal d'aller ensevelir son père? Mais bien sûr. Est-ce que c'était normal de prendre congé de ceux de sa maison? Mais bien sûr. Mais que dit cet homme au Seigneur? Il lui dit, « Permets-moi premièrement. » Ce qu'il a premièrement dans son cœur, c'est lui. Moi, premièrement. Et en fait, que demande le Seigneur? Le Seigneur, il demande la première place dans mon cœur. Quand Marthe l'a invité chez lui, elle le reçoit dans sa maison. Elle lui a dit, « Seigneur Jésus, tu es là chez toi. C'est ta maison. » Elle lui a pas dit, « Seigneur, tu restes ici dans cette pièce et tu n'as pas le droit d'aller dans les autres. » Et dans mon cœur, dans ma vie, est-ce que le Seigneur a sa place, toute la place, la première place? Est-ce qu'il a la priorité? Est-ce qu'il y a vraiment ce premier amour? Quel est le dernier verset de l'Épître aux Éphésiens qui fait comme un écho à ce que nous avons dans notre Épître? Lisons-le. Le dernier verset de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 24. « Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ en pureté. » Dernière parole de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, il parle d'aimer le Seigneur en pureté. Le cœur de la lettre de Jean aux Éphésiens, tu as abandonné ton premier amour. Il y avait toutes les ressources. Il y avait la prière de l'apôtre Paul. Il y avait ce souhait de l'apôtre Paul à la fin de son épître. Il y avait toutes les ressources. Tu as abandonné ton premier amour. Mais est-ce qu'on en reste là? Non. Souviens-toi donc d'où tu es déchu. Recherche un peu, regarde à quel endroit tu as fait. Tu t'es écarté. Qu'est-ce que c'est qui a fait que tout d'un coup, le Seigneur a perdu la place qu'il devait avoir dans ton cœur? Est-ce que peut-être tu aimes le Seigneur et puis tu commences à travailler, il y a du travail pour lui et tout d'un coup, tu fais comme Marthe. Marthe, elle avait donné toute sa maison au Seigneur. Et puis tu fais comme Marthe qui était distraite par beaucoup de services. Alors dans l'ordre dans ta vie, il y avait au départ le Seigneur. Et puis il y a le dévouement pour le Seigneur, puis tout d'un coup, c'est devenu le dévouement pour le Seigneur, et le Seigneur est au deuxième rang. Et on ne se rend pas compte, on continue à travailler pour le Seigneur. Ce que l'on fait, on le fait pour le Seigneur, mais c'est le travail qui devient important, et ce n'est plus le Seigneur, ce n'est plus juste. Alors est-ce qu'il faut arrêter de travailler? Mais non, ce qu'il faut c'est revenir au Seigneur, être de ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ en pureté. Souviens-toi donc d'où tu es déchu. Quand Abraham est parti en Égypte, quel chemin a-t-il fallu qu'il fasse pour revenir? Il a fallu qu'il revienne à son point de départ. Quand nous nous éloignons du Seigneur, il faut que nous revenions au point de départ. Souviens-toi donc d'où tu es déchu et repens-toi. Alors il y a, bien sûr, d'un côté, il y a ce fait tellement humiliant de constater que ce que le Seigneur nous confie, nous le laissons partir. Mais il y a toujours le chemin du retour. Souviens-toi donc d'où tu es déchu et repens-toi et fais les premières œuvres. Des œuvres dont le vrai motif, c'est l'amour pour le Seigneur.
Il y avait donc des choses nettement positives qui sont reconnues à Éphèse. Tu ne peux supporter les méchants. Les méchants sont ceux qui, n'ayant aucune relation, liaison intime, personnelle avec Dieu, méprisent froidement sa parole, comme si cette parole n'existait pas. On a rappelé ce passage du psaume 119, ils ont annulé ta loi, comme si la loi de Dieu n'existait pas. Donc, tu ne peux supporter les méchants. C'était une attitude heureuse. Puis, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Il y en a qui se présentaient, voulant jouer un rôle, voulant exercer une certaine autorité. On se présentait comme étant des apôtres. Et en fait, qu'ils ne l'étaient pas, tu les as trouvés menteurs. Donc, un discernement est reconnu par le Seigneur chez les témoins, ces témoins à Éphèse. Et tu as patience, tu as supporté les afflictions pour mon nom, tu ne t'es pas lassé. Voilà des choses tout à fait positives. Il y avait donc des manifestations de la vie de Dieu qui étaient absolument certaines. Mais alors, la chose grave qui est relevée, tu es contre toi, que tu as abandonné ton premier amour. À Éphèse, on avait abandonné le premier amour. Et je pense que les passages que notre frère a rappelés à la fin d'Éphésiens 3 et à la fin de l'Épître, Éphésiens 6, montrent précisément que de telles vérités n'existaient plus à Éphèse à ce moment-là. On ne réalisait plus du tout cet amour dont il est parlé à la fin d'Éphésiens 3, cet amour et en pureté dont il est parlé à la fin d'Éphésiens 6. Et j'ai cela contre toi, tu as abandonné ton premier amour. C'est une chose grave, chers amis. On peut dire la chose la plus grave. Abandonner son premier amour, cet amour réel, vivant, fervent, qu'on aime, dont on aime à parler, chez un jeune, par exemple, ou chez une âme nouvellement convertie, aimant le Seigneur de tout son cœur. On parle du temps du premier amour, et hélas, premier amour peut aller en diminuant. Et le Seigneur doit dire ici, j'ai ceci contre toi, que tu as abandonné ton premier amour. Et les exhortations qui suivent encore, les rappels des versets 5 et 6, dont nous parlerons cet après-midi, Dieu voulant.
Si vous me le permettez d'exprimer une pensée sur ce verset 4, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Je pense que nous devons mettre ce verset en relation avec le verset 5 du premier chapitre, à celui qui nous aime. Il semble que nous devions percevoir dans ce reproche une infinie tristesse du cœur aimant du Seigneur, une certaine frustration qu'il extériorise. Je pense à un verset que nous trouvons dans le livre du Cantique des Cantiques. Au livre du Cantique des Cantiques,
Nous allons lire ce verset 12 du chapitre 4 du Cantique des Cantiques. « Tu es un jardin clos, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée, c'est-à-dire une expression, une propriété exclusive, appartenant entièrement au Seigneur. » Et par cette déclaration, ce reproche, le Seigneur ne s'adresse pas seulement à la conscience du croyant, mais surtout à son cœur. Le Seigneur veut lui faire comprendre ce qu'il ressent lui-même de cette frustration dont il est l'objet. Tu as abandonné ton premier amour. Nous avons la même pensée, je crois, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17 de l'Évangile selon Luc. Nous lisons verset 11e. Il arriva qu'en allant à Jérusalem, il traversait la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 hommes lépreux le rencontrèrent. Et ils s'arrêtèrent de loin et élevèrent la voix, disant, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Et les voyant, il leur dit, « Allez, montrez-vous au sacrificateur. » Et il arriva qu'en s'en allant, ils furent rendus nets. Et l'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et se jeta sur sa face aux pieds de Jésus, lui rendant grâce. Et c'était un Samaritain. Et alors voilà ce que le Seigneur ressent dans ce verset 17. Jésus répondant dit, « Les 10 n'ont-ils pas été rendus nés ? Et les autres, les 9 autres, où sont-ils ? » Ils auraient aussi, semble-t-il, auraient dû revenir vers le Seigneur pour exprimer la reconnaissance de leur cœur pour la guérison dont ils étaient l'objet. Un seul et un étranger est revenu vers le Seigneur. Ne percevons-nous pas là l'amertume du cœur du Seigneur ? Les autres, où sont-ils ? Eh bien, c'est le même sentiment que le Seigneur extériorise dans ce reproche qu'il fait à l'Assemblée d'Éphèse. J'ai contre toi. J'ai contre toi que tu me frustres de ton amour envers moi. J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Et cela s'adresse non seulement à la conscience de chacun de nous, mais aussi à notre cœur. Personne, a-t-il pu dire dans l'Évangile selon Jean, personne n'a un plus grand amour que celui-ci. Il laisse sa vie pour ses brebis. Qu'à son amour, notre amour réponde. Lui qui, comme nous le chantons dans le Cantique 65, il est immuable dans son amour.